Aujourd'hui, nous allons voir le livre des juges. Je pense que le message est assez court. Je peux me tromper, bien sûr. Mais on est dans les juges. Chapitre 3, je vais faire une petite lecture. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué, juge. Juges, chapitre 3. Et nous allons lire les versets 12 à 15. Comme un exemple de tout ce livre. Versets 12 à 15. Chapitre 3, versets 12 à 15. Excusez-moi, je suis pas encore là. Josué, chapitre 3.
C'est Josué, chapitre 3.
Oui, à partir de verset 12.
Non, juge.
Juge. Juge, chapitre... Donc, c'est la page 250 dans cette Bible-là. OK, on va lire. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglon réunit à lui les fils de Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Donc, ce livre des juges est une répétition de ce petit texte-là. Encore, encore, encore. Cette fois, il y a cette répétition. Donc, par juge, on veut dire des personnes qui libèrent, donc libèrent Israël et puis rendent justice. Ce sont des juges. Ce livre contient des récits les plus bizarres, les plus étranges, dégoûtant et choquant de toute la Bible. C'est ce livre-là. OK? Ce livre est connu par la phrase « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Dans le texte, il dit qu'ils ont oublié Dieu. Pour les Israélites de cette époque-là, ils avaient oublié Dieu, il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de loi. Ça fait que Israël, à cette époque-là, était sous quel règne? Vous connaissez le mot? L'anarchie. C'était une période d'anarchie. Et c'est pour cela qu'on voit dans les récits de ce livre les profondeurs de la dépravité humaine. Le pire. Et ça nous revient aujourd'hui. Les choses qu'on peut lire dans les journaux et tout ça reviennent aux mêmes choses qu'on voit dans ce livre parce qu'on est dans une période qui s'enfonce vers l'anarchie. Le livre couvre 300 ans. Donc, il faut comprendre qu'il y a X juges, il y a 12 juges, et certains juges ont jugé en même temps que d'autres juges. Donc, si vous les ajoutez ensemble, ça fait 410 ans. Mais la réalité, ça fait que 300 ans, parce qu'il y en a qui ont jugé en même temps. Et puis, le livre de Ruth a eu lieu pendant cette période. Ce qui se passe, donc, après la délivrance de l'Exode, et puis la victoire en Josué, on a juge. Et là, on a l'oubli de l'Éternel. Le livre raconte sept apostasies, sept servitudes et sept délivrances. Et cette série se répète. C'est ça. Suite à la grâce et la victoire, il y a l'oubli. Il y a l'entrée dans le péché, il y a le jugement, et puis quand Israël invoque Dieu, ils viennent à leur secours avec un autre juge qui va les libérer pour restaurer une partie de de liberté au peuple d'Israël. Et malheureusement, même dans nos vies chrétiennes, c'est un peu pareil. Hein, contexte de l'enseignement pour nous, eh bien, on sait qu'on est sauvé par la grâce, mais on a tous dans notre nature humaine la tendance à être ingrat et à oublier. Et donc, nous oublions notre Sauveur, nous allons nous engager dans divers péchés et pratiques qui vont nous asservir. Dans nos vies, on va être dépendant peut-être de certaines choses. Et à la fin, on va, j'espère, invoquer que le Seigneur nous délivre de nos propres problèmes. N'est-ce pas? Donc ça, c'est globalement comment ça marche, appliqué à notre vie chrétienne. Dans le livre, je voudrais passer juste quelques minutes à lire chapitre 2, verset 7, et puis verset 10 à 13, et puis on va suivre à travers, je vais faire quelques petites remarques. Chapitre 2, verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, donc ça c'est le livre de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Okay, donc il y avait tout le peuple qui est mort dans le désert, sauf les gens de 20 ans et moins qui avaient quitté l'Égypte, ont commencé donc avec Josué et Caleb, les deux seuls anciens. Eh bien, ils ont fait toute cette période, 30 ans, pour réclamer le pays d'Israël. Et puis maintenant, ceux qui ont connu la guerre avec Josué et leurs enfants, quand tous ces gens-là sont morts, on arrive au verset 10, qui dit que ces gens-là, toute cette génération, fut recueillie auprès de ses pères, donc ils sont tous décédés, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc c'est triste, parce que là, on a eu toutes les victoires que les gens qui l'ont vécu savaient bien que c'était Dieu qui agissait à travers toutes ces choses, les murs de Jéricho qui sont tombés sans même les toucher, etc. Et puis, à la fin, la génération, comme nous tous, hein, est morte, et la nouvelle génération ne connaît pas l'Éternel. Donc, verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Les Baals, c'est les dieux païens. Donc, au lieu de se convertir, parce que c'est toujours pareil, même pour le christianisme, s'il n'y a pas de conversion de la prochaine génération, c'est fini. Hein? Il y a notre génération, nous croyons. Mais nos enfants, est-ce qu'ils croiront? Est-ce qu'ils ne croiront pas? Ça, c'est à eux de choisir, parce que nous ne pouvons pas imposer la foi sur nos enfants. On peut l'apprendre, mais on ne peut pas l'imposer. Et donc, ils ont abandonné Dieu, ils ont abandonné l'Éternel, verset 12, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astarté. Donc, c'est pas des bonnes informations sur le peuple d'Israël. Une fois que le peuple n'avait plus contact avec Dieu, eh ben, ils sont allés faire tout les bêtises. Donc, comment Dieu, il les a sortis d'Égypte, il a fait des promesses, vous entrez dans le pays, ils étaient tous d'accord, on va faire tout ce que Dieu a dit. Ils entrent dans le pays, ça va bien pour une génération, une seconde génération, donc, n'est pas converti à Dieu. Et donc, Dieu qui avait fait des promesses de bénédiction et de malédiction, eh bien, Dieu est obligé d'agir. Donc, verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards et de pillières, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, donc contre Israël, pour leur faire du mal, comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. OK, donc, quand Dieu enlève sa bénédiction, quand Dieu ne protège plus, eh bien, c'est ça. Donc, il est marqué toujours dans ces textes comme ça, comme si Dieu leur faisait du mal, mais ce n'est pas que Dieu directement faisait le mal, mais qu'il enlevait toutes les protections, les bénédictions, etc. C'est la même chose pour nous. Quand nous marchons avec le Seigneur, ça peut aller. Et quand on commence à faire des bêtises, Dieu ne nous protège plus. Donc, on reçoit les conséquences de nos actions. Donc, ils étaient dans une grande détresse. Et il dit, verset 16, l'Éternel suscita les juges. Donc, les juges, comme je vous ai dit, ce sont les gens qui vont les libérer et rendre la justice, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais les Israélites n'écoutèrent pas même le juge, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Donc, Dieu agit par pitié, et pourtant, quand Dieu agit par pitié, par miséricorde, eh bien, les gens sont ingrats et ils continuent et poursuivent leur mauvais chemin. Lorsque l'Éternel leur suscitait, verset 18, des juges, l'Éternel était avec le juge. Et il est délivré de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Donc, c'était temporaire. Car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après les autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Donc, c'est radical. Quand on ne connaît pas Dieu, on ne s'intéresse pas à Dieu ni les choses de Dieu, et voilà que ça allait de pire en pire chez les Israélites. Et donc, verset 20, « Alors la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. » Donc, c'est la seconde fois qu'on voit la phrase. Et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrit à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. » Donc, ici, on voit, donc, premièrement, que Dieu juge, mais il va laisser les païens dans le pays d'Israël pour que ça devienne une épreuve, pour voir si les Israélites vont suivre Dieu ou ils vont se soumettre aux pratiques païennes. Et une autre chose intéressante, c'est qu'on voit que, en fait, Dieu, je n'ai pas encore lu le verset, mais Dieu laisse la paix à ses païens. Quelque part, Dieu fait grâce, parce qu'Israël devait tuer tous ces gens-là. Et au lieu de les tuer, Dieu les laisse comme l'épreuve pour Israël, mais aussi ça fait la paix pour ces païens-là, dans le verset 22 et 23. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non à suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations, donc les nations c'est les païens, qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, donc c'est ce qui reste, et il se hâta. Et il ne se hâta point de les chasser d'Israël. Donc, ça c'est ce qui se répète à travers les livres. Donc, on n'a pas besoin de voir tout le livre et toutes les choses qui ont eu lieu. On a déjà vu deux fois ce matin la série. C'est comme ça. Ils détournent de Dieu et puis Dieu les punit et puis ils invoquent Dieu et puis envoient le juge. OK? Donc, je voudrais parler encore d'une autre petite chose dans ce livre parce que ça revient constamment. Donc, je voudrais simplement vous donner une optique biblique sur le service militaire. OK? Parce qu'on entend souvent que Dieu est contre le service militaire, que la Bible est contre le service militaire. Et donc, on va voir ce qu'on peut trouver dans la Bible concernant le service militaire. Chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles, Israël, tout ce qui n'avait pas connu toutes les guerres de Canaan. C'est-à-dire, ces gens qui sont restés là n'étaient pas dans les guerres contre Israël, pas encore. Donc, pourquoi Dieu les a laissés encore vivants? Et par cela, il dit, il voulait, donc Dieu voulait seulement, donc à travers de tout ça, que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Donc, ceux qui ont été avec Moïse ont connu la guerre, ceux qui étaient avec Josué ont connu la guerre, et pendant cette période d'anarchie, ils n'ont pas connu la guerre. Donc, Dieu, en partie, avait laissé les ennemis dans le pays pour que les enfants d'Israël, donc les hommes, apprennent à pratiquer la guerre. Ces nations étaient, donc il donne la liste de ces nations, on ne va pas lire la liste, qui étaient là pour éprouver Israël, afin que l'Éternel sache s'il observerait au commandement qu'il prescrivait à leur père par Moïse. Donc ça c'était le verset 4. Mon point ici, c'est surtout ce qu'on voit dans ce verset 2 qui dit que Dieu voulait que les enfants d'Israël apprennent la guerre. C'est intéressant comme chose, parce que la réalité c'est que la Bible n'est en rien contre la guerre entre pays. Tout peuple, tout pays a le droit d'exister. Tout pays a le droit d'exister et a le droit à se défendre. C'est un peu le problème avec la Deuxième Guerre mondiale, non? Première Guerre mondiale, il y avait un peuple qui voulait prendre possession de tous les autres pays aux alentours. Vous suivez ce que je veux dire là? OK? Donc, il est faux de dire que la Bible s'oppose au service militaire. En réalité, je vais vous donner une liste. Donc, Abraham, avec 318 serviteurs armés, a délivré Lot et sa famille. Josué a délivré donc la grande partie d'Israël. Donc, on a parlé de ça ici, par la guerre. David a tué Goliath. Est-ce que c'était un péché? Ben non. Non. Et c'était obligé parce qu'il était là contre Dieu. Et tous les soldats d'Israël refusaient de se lancer contre un homme. Il était trop grand. Peut-être il touchait là-haut. Et puis le petit David a fait la bataille avec le géant et a fait tomber. Et puis on chantait que David avait frappé ses 10 000. Et puis il y a une liste des hommes vaillants dans l'Ancien Testament qui sont nombreux. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes vaillants. Ça veut dire les hommes de guerre. Néhémie a rebâti Jérusalem avec les hommes armés. Donc, vous avez lu ça. Non, vous n'avez pas encore lu ça dans l'été. Il n'y a aucune reproche qui est faite aux soldats et centeniers dans le Nouveau Testament. La seule chose que Jean-Baptiste dit, c'est que les soldats doivent être satisfaits avec leur solde. Mais il n'a pas dit « arrêtez votre métier ». Et puis enfin, Paul, il spécifie que le magistrat ne porte pas son épée en vain ou pour rien. Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On tue. Hein? Donc, on voit que il y a quand même un service militaire, il y a des services de police, il y a Donc les Mennonites ont dit non, on ne vote pas, on ne porte pas les armes, on ne fait aucun service civique ni politique, parce qu'ils trouvaient que toutes ces choses-là étaient interdites par la Bible. Ah ben non, jamais dans la Bible. On peut avoir son opinion. Je ne parle pas de les opinions que les gens peuvent avoir. Hein? Mais on n'a pas raison de dire que la Bible soutient telle ou telle thèse. La Bible est très spécifique. Tout l'Ancien Testament est un livre de guerre. Et Dieu y mettait son approbation sur cela. Dans le Nouveau Testament, on ne le voit pas autant. Mais quand on voit les convertis qui étaient soldats, il n'y a rien qui les oblige de quitter le métier. Par contre, la Bible fait une nette distinction entre ce que fait le soldat quand il est sous l'autorité de son pays, donc dans la guerre, les soldats s'entretuent, et l'assassinat. L'assassinat, le meurtre dans un temps de paix. Et on voit ça dans une description. Donc, David, grand chef, hein, avait 3 généraux. Et un s'appelait Joab. Et Joab a assassiné 2 autres généraux. Okay? Donc la Bible dit que Joab a versé, pendant la paix, le sang de la guerre. C'est-à-dire le sang de la guerre. Verser le sang dans la guerre, c'est la nature de la guerre. Mais il n'y a aucune raison qu'on vienne pendant un temps de paix et qu'on tue même un soldat. On ne le tue pas dans un temps de paix. C'est un assassinat. Donc, cette série se répète, Et je voulais faire une application dans 2 Pierre. Donc, vous pouvez me parler en plus de détails sur la question du service militaire. Mais, à être clair, ce n'est pas une optique biblique de dire que je m'oppose à un service militaire. C'est une optique personnelle qu'on pourrait avoir ou ne pas avoir, mais ce n'est pas du tout une optique biblique.
Je crois qu'il y a aussi un verset du Nouveau Testament qui dit que Christ est venu avec le glaive.
Oui, mais là, il faut l'interpréter. C'est pas la même chose, oui. C'est la division dans les familles et tout ça, mais c'est pas vraiment une activité physique. En fait, je n'entre pas trop dans cela, mais il y a l'enseignement de Jésus que nous ne devons pas nous défendre quand c'est une question de la foi. Donc, il y a un point où on peut être pacifiste quand on veut nous persécuter à cause de la foi. Par contre, quand c'est une question... par exemple, si quelqu'un voudrait, vous avez un enfant et quelqu'un voudrait tuer ou faire du mal à votre enfant, c'est à vous de protéger. Hein? Ce n'est pas à vous de vous dire, ah, mais je suis pacifiste, bah, allez-y, battre mon fils, battre ma fille, etc. Ça ne va pas. Okay? Donc, ce n'est pas le même sujet. Okay? Donc, regardez 2 Pierre, chapitre 1, et on va lire versets 9 à 12. 2 Pierre. Donc, dans cette Bible-là, c'est la page 1225. Et le verset, chapitre 1, verset 9. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc, il dit globalement au verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point. » Donc, si on est un chrétien et on manque certaines choses, eh bien, ça veut dire qu'on a oublié l'Éternel. Et donc, je me suis posé les questions, c'est quoi ces choses-là? OK? Les promesses de Dieu. Quelqu'un qui oublie les promesses de Dieu. Quelqu'un qui oublie qu'il est participant de la nature de Dieu par le Saint-Esprit qui est en lui. quelqu'un qui ne fuit plus les corruptions de la chair, quelqu'un qui oublie les vertus, la science de Dieu, la tempérance, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour fraternel. Quelqu'un qui oublie ces choses-là, donc ça c'est ce qu'il veut dire dans le verset 9, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Comment ça se fait qu'on soit chrétien et qu'on oublie les promesses de Dieu, qu'on oublie l'amitié fraternelle, qu'on oublie que le Saint-Esprit participe en nous et que nous participons dans la nature divine par le Saint-Esprit? Comment ça se fait? C'est par la nature humaine. C'est quand on agit comme les gens en juge. Vous voyez? Et que voilà, Dieu ne peut plus nous bénir à ce moment-là. On ne veut pas ça. C'est pour ça que quand nous savons qu'on a oublié, on s'est égaré, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre compte, on va confesser nos fautes et Dieu va nous purifier car le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Donc ça, c'était une petite pensée pour faire une application assez vaste et large de ce livre. Okay?